J'ai vraiment été béni à travers, si vous étiez en face de moi, vous me verriez souriant. J'ai vraiment été béni à travers le dernier chant. Je ne me rappelle pas quel est ce. J'ai beaucoup aimé ce chant. J'ai beaucoup été béni à travers ce chant. Alors, je crois que. Merci beaucoup, frère. Je crois que le Seigneur a fait de la bonne provision. Eh bien, pour mon âme, déjà à travers ce chant qui a été chanté. Je ne m'en rappelle pas le titre, mais c'était vraiment extraordinaire. Ah, notre Dieu est grand, frères et sœurs. Nous allons prêcher la parole. C'est encore ce matin. Et nous allons utiliser ce texte de l'Évangile. Jean chapitre 12, frères et sœurs. Ce texte de l'Évangile, ce sera celui que le Saint-Esprit va utiliser pour eh bien, parler à mon cœur, parler à votre cœur, pour nous bénir ensemble, frères et sœurs. Dans Jean chapitre 12, nous allons lire les versets 20 à 36, frères et sœurs. À la gloire du Seigneur, Jean chapitre 12, versets 20 à 36. Nous allons regarder ce que le Seigneur nous réserve à travers cette portion des Écritures saintes, frères et sœurs. Je lis pour vous, tandis que vous suivez la lecture avec moi. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, Jean chapitre 12, versets 20 à 36, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix du ciel, vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Et comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme ?» Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, voyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Et le Seigneur bénit et sanctifie la lecture de sa sainte parole, sa parole toute puissante et efficace. Eh bien, pour notre plus grande édification, frères et sœurs, veuillez vous remettre. Veuillez vous remettre. Et la série continue, frères et sœurs. Et la sous-série continue. La série, le thème, la série annuelle, la thématique annuelle, le thème annuel, vous le savez, rendons gloire à Dieu dans tous les aspects de notre vie, ou glorifions Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et depuis que j'ai commencé la série, je n'ai de cesse de vous entretenir au sujet d'une sous-série intitulée « La réalité de la gloire de Dieu ». Quand j'ai commencé à parler de la réalité de la gloire de Dieu, eh bien, nous avons passé en revue quelques manifestations tangibles, et visibles, efficaces de la gloire de Dieu. Et après, j'ai prêché quelques sermons, deux ou trois sermons, sur ce titre et qui était comme une sous-série, une sous-thématique. Eh bien, qui s'appelait « Dieu sait ce qu'il fera ». Et j'ai commencé depuis dimanche passé une autre sous-série que j'appelle « Témoin de la gloire de Dieu ». Aujourd'hui, nous allons regarder toujours dans « Témoin de la gloire de Dieu ». Je vais regarder avec vous ce titre qui dit « La croix ». Lieu de glorification et source de gloire. Amen. Quelle belle nouvelle, frères et sœurs. La croix. Lieu de glorification et par le fait même, source de gloire. Amen. Vous avez vu sans doute ce texte, une fois le frère Adouin l'avait lu avec nous ici, quand il présidait un dimanche. Quoi qu'il avait lu ce texte, il y a d'autres bien-aimés qui sont familiers avec le Jean chapitre 12. Plus particulièrement, si vous regardez au début du chapitre 12, ce que vous verrez, c'est la suite du chapitre 12. Le discours, l'enseignement que le Christ a donné, ça vient en quelque sorte du verset premier, depuis le commencement du chapitre. Vous vous rappelez, au commencement du chapitre 12, si vous lisez attentivement à la maison, ou vous avez déjà lu, vous verrez que Jésus vient de faire ce que nous appelons habituellement à l'Église, ou dans le langage théologique, une entrée triomphale, une entrée royale à Jérusalem. Et à Jérusalem, lors de cette entrée, vous connaissez l'histoire, il y a une grande foule qui a accueilli le Sauveur avec d'un accueil chaleureux. Et il y a quelques paroles qui ont été rapportées suite à cette entrée, cet accueil que les gens lui ont réservé. Mais la suite de l'histoire d'emblée commence au verset 20. Lorsque quelques Grecs, dit le verset 20, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, parce que c'est à la veille de la fête que Jésus est allé à Jérusalem pour mourir. Les foules qui étaient là, probablement ces Grecs-là qui vont s'adresser à Jésus, probablement ils ont vu la gloire de Jésus dans la résurrection de Lazare, par exemple. Et ils sont piqués par une espèce de curiosité. Ils veulent aller plus loin. Ils veulent creuser plus au profond, eh bien, et Jésus. Et si ils demandent à Philippe, Le texte ne nous dit pas pourquoi c'est à Philippe qu'il s'adresse. Il n'y avait pas que Philippe dans la garde rapprochée du Christ. Il s'adresse à Philippe, probablement, parce que Philippe est de Bethsaïda, probablement parce qu'ils sont grecs et Philippe a un nom grec. On ne sait pas, mais c'est à Philippe qu'ils se sont adressés. C'est par Philippe, eh bien, que le Saint-Esprit est passé pour nous donner, eh bien, ce trésor que nous trouvons dans Jean chapitre 20, 12, verset 20 à 36. Il dit à Philippe, avec instance, dit la parole, « Seigneur, l'équivalent de monsieur aujourd'hui, nous voudrions voir Jésus. » Alors, et ne prenez pas le verbe voir ici au premier degré. Ce n'est pas voir Jésus dans le sens de on regarde Jésus, puis on revient, on retourne sur ses pas. Voir Jésus, c'est comme quand tu viens, tu dis, est-ce que je peux voir Pasteur Sergo? Ou bien est-ce que je peux voir Jacques Tel? Est-ce que je peux voir le premier ministre Charest? Ou dans le sens d'avoir une conversation, un entretien avec lui. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Est-ce que je peux voir Frère Jacques? Dès que je dis ça à Sœur Elta, il va pas, Frère Jacques ne va pas apparaître, puis je le regarde, puis je m'en vais, pas vrai? Alors, c'est le même langage qu'on a ici. Est-ce que je peux voir Jésus? Puis-je avoir un entretien? Pouvons-nous parler à Jésus? Et suivant le verset 2, l'oratoire, Philippe alla le dire à André, là encore, nous aimerions savoir pourquoi c'est à André qu'il est allé dire qu'il y a des gens qui veulent voir Jésus. On ne le sait pas. Est-ce qu'il y avait une chimie particulière entre les deux dans le collège des 12? On ne le sait pas. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Bon. Jésus répondit au verset 23. Nous l'avons lu ensemble. L'heure est venue, frères et sœurs, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Remarquez bien, ce n'est pas ce qu'on a demandé à Jésus. On n'est pas venu demander à Jésus, Seigneur, est-ce que ton heure est arrivée pour être glorifié? On a demandé à Jésus un entretien. On a demandé à lui parler. Ça va, frères et sœurs? Et Jésus n'a pas donné une réponse spécifique à la demande qui lui était adressée. Il saisit cette occasion comme un déclencheur. Pour faire un long discours sur sa mort. D'abord pour l'annoncer. D'abord pour annoncer sa mort. Pour annoncer de quelle manière il va mourir, sa manière de mourir. Pour annoncer le bien fondé de sa mort. Pour annoncer les conséquences de sa mort. Et également pour annoncer les conditions pour être béni par sa mort et dans sa mort. Avez-vous compris? On n'a pas demandé à Jésus de faire un discours sur sa mort. Et pourquoi le Christ, dans sa sagesse, dans son omniscience, a-t-il utilisé cette occasion? Pourquoi, au lieu d'accorder l'entretien, la rencontre, pourquoi ce qui l'intéresse à ce moment-ci, pourquoi saisit-il cet élément comme déclencheur pour faire le discours dont je viens de vous donner les composantes, les grandes lignes? C'est parce que Jésus voit à travers cette demande un signe, une illustration de ce qui va se passer bientôt à la croix. Est-ce que l'Église est là? C'est-à-dire que, si vous lisez, je n'aurai pas le temps de lire ça avec vous, les versets 18 à 19, vous verrez que dans leur jalousie, dans leur haine du Sauveur, les autorités juives arrivent à un point où ils rejettent Jésus davantage, avec plus de violence qu'au début de son ministère. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et Jésus voit dans la démarche des Grecs, des païens, à comparer à la démarche maléfique des Juifs ou des autorités juives, un contraste tandis qu'ils s'apprêtent à mettre le comble à leur rejet de Jésus, même Lazare, ils projettent de le tuer, parce qu'à cause de Lazare, les gens n'arrêtent pas de parler de Jésus, ils parlent de Jésus davantage. Ne nous laissons pas distraire, écoutez, donnez-moi vos regards, donnez à Jésus vos regards un moment, s'il vous plaît. Et tandis qu'ils se préparent à mettre le comble à leur rejet du Messie, ne voilà-t-il pas que des païens, eux, sont attirés par lui? Est-ce que vous comprenez la situation? Ne voilà-t-il pas que des païens sont attirés par lui? Et c'est pour la raison pour laquelle Jésus, eh bien, sachant que ça typifie très bien ce qui va passer tout à l'heure, bientôt à la croix, là où il va être glorifié, il en parle. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus ne dit ni plus ni moins ici que l'heure est venue où le Fils de l'homme va mourir. Parce qu'il voit dans sa mort l'occasion de sa glorification. La mort de Jésus sera la première étape de sa glorification. Si pour les hommes l'agonie de Jésus, les souffrances de Jésus, la mort de Jésus sont synonymes d'humiliation, d'échec, de misère, dans le plan souverain et éternel de Dieu, la mort de Jésus, c'est le moyen privilégié par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit pour sauver l'humanité et pour glorifier le Fils. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ce qui peut être un problème pour les hommes peut être une solution pour Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'oratoire, nous dit dans Hébreux 12, verset 2, « En vue de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » Pourquoi j'évoque ce verset dans la circonstance? C'est parce que la joie dont il est question ici est synonyme de la gloire. Vous auriez bien pu enlever joie de la joie en vue de la joie qui lui était réservée pour le remplacer par en vue de la gloire qui lui était réservée. Souvenez-vous, j'ai prêché dimanche passé, j'ai expliqué que le Christ n'est pas glorifié de la même manière que Moïse. Le Christ dégage une joie qu'il possède de l'intérieur à la transfiguration vers l'extérieur, dans sa dimension divine. Et dans sa dimension humaine, il reçoit une gloire qui vient du Père, qui fait passe suivant un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Il a une double joie. Alors, la joie qu'il possède d'éternité, c'est une chose, nous l'avons vu, les différentes manifestations de cette gloire, et la gloire, il faut préciser ça très bien, parce qu'il peut y avoir un problème au niveau doctrine ici. Et la gloire qu'il va commencer à recevoir dès l'instant de sa crucifixion jusqu'à l'ascension, ce sera une gloire qu'il va recevoir en tant que serviteur souffrant, obéissant. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ah, c'est important, hein? D'où, frères et sœurs, pour expliquer la nécessité de sa mort, eh bien, Jésus enchaîne au verset 24. Il dit, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce que Jésus annonce ici, et c'est normal que la croix soit le lieu de la glorification, c'est qu'il va porter beaucoup de fruits. Dans le sens où il va donner la vie éternelle à un nombre extraordinaire de gens qui vont croire en lui, de futurs croyants qui vont, eh bien, croire en lui, de toutes les races, de toutes les nations, de tous les peuples, de toute langue, de toute tribu, de toute culture, comme la Bible elle-même nous l'a dit, tout peuple confondu. Il va porter beaucoup de fruits. À ces gens qui voulaient le voir, c'est une manière pour Jésus de leur dire que il n'est pas dans le plan de Dieu que vous me voyez là et maintenant, parce que Dieu me donne un travail à faire qui fera en sorte que le nombre de gens que vous représentez symboliquement en tant que païens aura plus qu'une rencontre, qu'un entretien avec moi. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et force est de constater que l'analogie du grain de blé donne un principe général du royaume de Dieu, frères et sœurs. Un principe fondamental du royaume de Dieu. C'est paradoxal, mais c'est vérité. C'est que la mort donne la vie. Est-ce qu'on est là? Il faut passer par la mort pour avoir la vie. C'est ce qu'il explique ici. Verset 25. Celui qui aime sa vie, en sorte que celui qui aime sa vie n'aura pas de vie. Est-ce qu'on est là? N'oubliez pas jamais ça. Si vous quittez ici, rappelez-vous de ça. Le principe de base fondamental du royaume, c'est que c'est la mort qui donne la vie. Si j'aime tellement ma vie, je ne veux pas mourir, je n'aurai pas la vie. Le Christ enchaîne au verset 25, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie, elle, dans ce monde, quant à ce monde, il faut comprendre ça aussi, la conservera pour la vie éternelle. Bon, vous savez, haïr sa vie, c'est comme quand Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï, détesté Ésaü. Alors, vous comprenez très bien que Dieu, le Dieu d'amour, n'est pas en train de nous demander de nous haïr. Ici, l'idée de haïr dans la langue originale, haïr traduit préférer. Je préfère la vie de Jésus à ma vie. Est-ce qu'on est là? Haïr sa vie ici, c'est préfère la vie de Christ, la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ à sa propre vie. C'est une question de préférence. Mais Dieu nous appelle sans être narcissique, Dieu nous appelle à nous aimer, frères et sœurs. Hein, nous devons nous aimer. Donc, il faut comprendre les termes. Alors, dans ce contexte, lui, à l'inverse, aimer sa vie, eh bien, c'est préférer sa vie, eh bien, à la vie de Jésus. C'est une espèce de vie pour soi, à l'exclusion de la vie de Dieu. C'est une espèce de centrisme, d'égocentrisme même. Je fais tout ce que je veux. Je suis mes voies, je suis mes ambitions. Je suis mes règles, je suis ma volonté, je suis même la norme de ma vie à l'exclusion des normes de Dieu. Alors, c'est ce qu'on appelle ici aimer sa vie. Jésus dit, si tu es comme ça, si on est comme ça, si je suis comme ça, je n'aurai pas la vie. Parce que le principe du royaume, c'est d'haïr sa vie et d'aimer la vie de Jésus. Maintenant, au verset 27, le Christ enchaîne. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Et dans une sorte de monologue, il dit, que dirai-je? Qu'est-ce que je vais dire? Ça m'a dit, ça m'a fait. Est-ce que je vais demander au Père de me délivrer du supplice de la croix qui s'en vient? Je paraphrase, le Christ dit, mais non. Le Saint-Esprit parle à lui-même, dit, mais non. Seigneur, est-ce que j'abandonne? Étant donné les problèmes, les difficultés, les tracas, est-ce que j'abandonne ou est-ce que je continue? Est-ce que je poursuis dans ce mariage-là? Est-ce que je poursuis dans cette église-là? Est-ce que je poursuis dans cette amitié, dans cette relation-là? Seigneur, qu'est-ce que je fais? M'a pris un problème. Et le Saint-Esprit dit à Jésus, mais non. Mais non. Il y a deux alternatives qui s'offrent à Jésus. Tout abandonner, reculer et déshonorer Dieu, ou bien avancer et glorifier Dieu. Avez-vous remarqué ça là, dans le passage-là? Mais oui, le verset 27. Regardez. Mon âme est troublée. Dans sa dimension humaine, son âme est troublée. Il voit la croix. Il sait qu'est-ce qu'il attend. Il a lu le prophète Isaïe. Et même si le Christ n'avait pas lu le prophète Isaïe, il saurait qu'est-ce qu'il attend. À la croix, il est Dieu. Amen. Isaïe n'a-t-il pas dit dans Isaïe 53, verset 10 à 12, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il le sait, il est Dieu. Et il a même inspiré Isaïe à écrire ça. Donc, il sait qu'est-ce qu'il attend sur le bois du calvaire infâme à Golgotha. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité prolongera ses jours. Il y a un défi qui l'attend à la croix, mais en même temps, la croix va être un lieu de bénédiction de gloire également, frères et sœurs. C'est ça le projet de Dieu sur sa vie. Qu'il soit le nouveau Moïse. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera juste et chargera et se chargera de leur faute. Il le sait. Jésus aurait pu garder, très important, Jésus aurait pu garder son trouble pour lui-même. Il aurait bien pu le faire, il est Dieu. S'il a choisi de l'exprimer, c'est pour dire à ceux, à la foule, aux disciples qui l'entouraient, c'est pour leur montrer qu'est-ce que ça coûte de vouloir marcher avec Dieu. Qu'est-ce que ça peut parfois coûter de s'engager aux côtés de Dieu, de s'engager à glorifier Dieu. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Mon âme est troublée. Il exprime ses émotions. Il exprime ses appréhensions. Il exprime sa douleur. Pour que les disciples réalisent que ce n'est jamais doux, ce n'est jamais sucré de faire la volonté de Dieu, de glorifier Dieu, frères et sœurs. Mais qu'il faut, malgré tout, le glorifier. C'est ce qu'il explique ici. Il dit, mais non, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas reculer. Parce que c'est pour cela, c'est pour cet ajustement que je suis venu. Non, non, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, femme. Tu ne peux pas faire ça, homme. Tu ne peux pas faire ça, la jeunesse. Tu ne peux pas abandonner ton Dieu quand Dieu a une mission sur ta vie. Tu ne peux pas abandonner Dieu parce que tes cercles d'amis te rejettent ou te menacent de te rejeter. Tu ne peux pas faire ça parce que Dieu a un plan pour l'humanité à travers ta vie. Dieu a un plan pour ton entourage à travers ta vie. Avance, glorifie Dieu. Et le Christ a résolu de choisir la deuxième alternative qui s'offrait à lui. Il veut aller de l'avant. Verset 28. Il va aller de l'avant. Père, Père, glorifie ton nom. C'est Dieu, Père. Mais que ta volonté soit faite. Et quand Jésus dit, Père, glorifie ton nom, il est en train de dire à Dieu, le Père, de manifester sa gloire, de faire sa volonté, de faire ce qui lui semble bon, de sa vie et dans sa vie. Il voit la mort, mais qu'à cela ne tienne, la volonté de Dieu est plus importante. Il donne un exemple de ce qu'il vient d'enseigner tout à l'heure. Il a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Il ne veut pas perdre sa vie. Il a dit, celui qui veut être son serviteur, eh bien, doit commencer d'abord à honorer son Dieu. Mais ce n'est pas lui maintenant qui va déshonorer Dieu parce que problème rivé. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? À la mort, on est pour Jésus. Et à la vie, on est pour Jésus. Glorifie ton nom. Ce qu'on remarque, c'est que Dieu n'a pas tardé à exaucer la prière de son serviteur. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ah, c'est important, frères et sœurs, que ton nom soit glorifié par ma vie. Le frère Désina a dit quelque chose tout à l'heure. C'est plus facile, ou je ne me rappelle pas, de se réjouir. Non, c'est normal, hein, mais pas quelque chose. Il a évoqué un texte biblique qui nous dit que c'est, quand tout va bien, c'est normal de se réjouir. Moi, j'ai vu l'église, écoutez, m'a coûté, frère et soeur, ça a fait. Me participer, me coûter tout, m'apprendre. On est là. C'est facile quand il n'y a pas de problème de dire, Seigneur, sois glorifié dans ma vie. Mais quand les problèmes, les tracas, les épreuves, les difficultés arrivent, même pas la mort, parce que la génération de croyants que vous et moi nous sommes, nous risquons pas la mort pour Dieu. C'est-à-dire, pas parce qu'on est au 21e siècle, mais dans l'espace géographique, social, où nous évoluons, nous risquons pas la mort. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais nous risquons des rejets. Parfois, nous pouvons être tentés de ne pas dire la vérité pour ne pas perdre l'amitié de André, de Jacques, de Pierre, de... Alors, je souligne là, je ne veux pas prendre cet exemple-là, de X, de Y. C'est ces formes de problèmes que nous risquons. C'est ces formes de mort que nous risquons, frères et sœurs. Nous ne risquons pas la mort physique comme les saints apôtres, comme les chrétiens de certains endroits, eh bien, d'Asie ou d'Afrique aujourd'hui. Mais nous risquons des problèmes matériels et de perdre des relations si nous sommes vraiment, et pour Dieu, si nous voulons vraiment glorifier Dieu, nous allons faire face à des temps difficiles. Et le Seigneur de dire, sois glorifié à travers ma vie, quitte à ce que je meure. Sois glorifié à travers ma vie, quitte à ce que je souffre. Manifeste ta gloire, Seigneur. Ce n'est pas pour moi qu'il faut que tu manifestes ta gloire. Manifeste ta gloire à cause de ton nom d'abord, à cause de ta fidélité d'abord, à cause de ta bonté, à cause de ta justice, à cause de ta sainteté. Manifeste ta gloire, quitte à ce que je passe. Êtes-vous prêt à dire ça à l'église? Quitte à ce que cet emploi passe, manifeste ta gloire. Quitte à ce que cette relation passe, manifeste ta gloire. Quitte à ce que ce privilège soit perdu, manifeste ta gloire. Es-tu prêt, l'oratoire? Es-tu prêt? Quitte à ce que ce ministère passe, manifeste ta gloire. Es-tu prêt? Je te dis, tu risques pas la mort comme les saints apôtres. Il n'y a pas de problème de mort pour toi. Les morts maintenant, c'est les épreuves. Les épreuves. Tu vois que c'est la vérité, tu ne le dis pas. Tu vois que c'est la vérité, tu ne le dis pas. Et tu le vois. Tu sais que ce n'est pas la vérité, mais tu ne le dis pas. Alors, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a glorifié, il a. Et vous vous rappelez à la montagne de transfiguration, ce qu'on avait vu. Quand il a parlé, il y avait un enseignement quand il a parlé. Ici, ce n'est pas le même enseignement. Ici, l'enseignement, c'est l'enseignement que je te donne en ce moment-là. Il a manifesté sa gloire. Il dit, je l'ai glorifié. Ce nom-là que tu me demandes, le L apostrophe, c'est un pronom personnel. Hein? Dans d'autres cas, L apostrophe, c'est article défini, hein? Ceux qui ont appris la grammaire française. Mais ici, il est un pronom personnel, complément d'objet direct, mis pour le mot nom. Est-ce qu'on est là? Ce nom-là que tu me demandes de glorifier, je l'ai glorifié déjà. Et l'apostrophe en place, non. Oui, tu es correct, mon serviteur. Je vais faire ce que tu me demandes. Je vais glorifier mon nom à ta demande. De toute façon, je l'ai déjà fait et je le ferai encore. La question théologique, biblique maintenant, c'est quand est-ce que Dieu a-t-il glorifié son nom dans la vie de Jésus? Mais j'en ai parlé. J'en ai parlé à sa naissance, il a manifesté sa gloire. À travers son fils, à son baptême, il a manifesté sa gloire. La gloire parole, j'en ai parlé, hein? Vous êtes bien avisés et rendus à ce temps-ci de l'année. Il a fait à travers les actes de puissance de Jésus, quand il a apaisé la tempête, mais c'est la gloire de Dieu qu'il a manifesté à travers le Fils de Dieu. Quand à Cana en Galilée, il a transformé l'eau en vin, vous vous rappelez, votre serviteur vous avait dit que c'était la gloire qui était manifestée. Et Jean l'a dit aussi. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Quand, au bord de la piscine de Bethesda, il a guéri cet homme malade depuis 38 ans. C'est sa gloire, la gloire de Dieu que Dieu avait manifestée dans la vie de son fils. Et finalement, la dernière fois en date, où on a vu regarder ça ensemble, à la montagne de Transfiguration, c'est sa gloire qu'il a manifestée. Il dit, je l'ai fait, il donne l'assurance à son fils. Ne t'en fais pas, mon fils. Je vais manifester ma gloire. De toute façon, je l'ai déjà fait. Est-ce que l'Église a là, frères et sœurs? Et comment il va le faire? Je l'ai dit tout à l'heure. Il va commencer à le faire d'abord par la mort de son fils. Ah, qui l'aurait cru? La mort de Jésus, la croix, c'est le lieu par excellence de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il va le faire. Comment? Comment, pasteur? Ce n'est pas clair pour moi. Mais verset 31 à 32. Regardez bien, verset 31 à 32. Maintenant a lieu le jugement de ceux. Lis avec nos frères et sœurs. Je n'ai pas de. Il y a l'affaire ici, là. 31 à 32. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Pourquoi la mort de Jésus est une occasion pour Dieu de manifester sa gloire? Parce que Dieu va commencer dans la mort de Jésus le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Ou du moins, c'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde, où maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Ici, nous avons la manifestation de la gloire justice. Votre serviteur vous avait entretenu au sujet du sens, de la signification du mot gloire, et on avait considéré tous ces aspects-là de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la justice de Dieu. Quand votre serviteur vous dit, la croix est un lieu par excellence de glorification, de manifestation de la gloire de Dieu, on y est. Regardez bien, la gloire sainteté, pourquoi Dieu va juger le monde? Mais parce que le monde a rejeté Dieu. On a ici la gloire pouvoir, la gloire puissance. Comment? Mais parce que si Dieu n'était pas tout puissant, il n'aurait pas été capable de juger le monde. Le monde ferait tout pour faire obstruction au jugement divin. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Donc la gloire de Dieu va manifester à la croix de cette façon. C'est la gloire souveraineté. Quand Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera? Voilà le sens de la croix qui est le lieu, eh bien, de la manifestation de la gloire de Dieu. Et moi, 32, quand j'aurai été élevé de la terre, donc quand j'aurai été crucifié, c'est ça que ça veut dire, j'attirerai tous les hommes à moi. Une autre manifestation de la gloire de Dieu. Voilà comment la croix, eh bien, est le lieu par excellence de la glorification. Quand moi j'aurai été crucifié, j'attirerai tous les hommes avec moi. Ici nous avons la gloire grâce. Nous avons ici la gloire compassion, la gloire miséricorde, la gloire bonté, la gloire amour. La gloire de Dieu va se manifester à la mort du Fils de Dieu dans ses souffrances. Dieu manifeste sa gloire à la croix de deux manières. En donnant à tous ceux qui reconnaissent leur péché la possibilité d'en être libérés, d'en être pardonnés, et en jugeant l'adversaire, celui eh bien, qui a introduit le péché dans le monde. Deux manières. Bien sûr, j'ai commencé à faire quelques éléments d'application du texte. Mais au final, parce que c'est deux enseignements qu'il y a dans le texte, hein, deux enseignements. Au final, avec quoi devons-nous rentrer à la maison? J'achève là. Avec quoi devons-nous rentrer à la maison? C'est que pour faire la volonté de Dieu, ça implique le plus souvent la souffrance. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? On y revient là? On sent l'affaire là. J'achève. Pour faire la volonté de Dieu, ça implique le plus souvent la souffrance. Pas nécessairement la mort. Nous ne sommes pas tous appelés à être des martyrs. On le sait. Non, pas nécessairement la mort. Mais j'ai expliqué en quelque sens déjà. Mais malgré les difficultés, il faut avancer avec Dieu. Il faut le glorifier pareil. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Premier aspect de la chose. L'autre aspect de la chose, c'est que la souffrance précède la gloire. Est-ce qu'on est là? C'est l'autre vérité qui est dégagée du texte. La souffrance précède la gloire. Il a fallu que le Christ meure avant qu'il soit glorifié. Et le Christ a dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Le petit mot pour honorer, c'est glorifier. Est-ce qu'on est là? C'est quoi glorifier? C'est approuver. C'est glorifier, c'est approuver. C'est de dire que tu as du poids. J'ai expliqué la gloire. C'est de dire que tu as de la valeur. C'est de dire que tu es signifiant. En sorte que si pour ta femme tu n'es pas signifiant, pour Dieu tu es signifiant. Tu as de la valeur. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Si pour l'église tu n'as pas de valeur, pour Dieu tu as de la valeur. Tu as du poids, tu pèses lourd. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Si pour le monde, si pour ton entourage, tes camarades de travail, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de signification, pour Dieu tu signifies beaucoup. C'est ça le sens de la glorification. C'est ça, ça veut dire que mon Père l'honorera. Comment mon Père l'honorera? Mon Père fera de lui roi. Vous êtes roi. Vous êtes des rois, vous êtes des reines. Quand tu vois ta main, mais tu vois une reine. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Quand tu vois Lionel, mais Dieu voit un roi. Voilà pourquoi le Christ s'est appelé Seigneur des Seigneurs. Quand il dit Seigneur des Seigneurs, c'est pas George Bush qui est un autre Seigneur, non? C'est nous autres, les autres petits Seigneurs en Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ah, on te comprend, elle dit, roi des rois, Seigneur des Seigneurs, c'est l'Egba, c'est quoi? Comment on appelle Dieu vaudou encore là? Ou bien les grands chefs de ce monde? Faux! Quand il dit il est Seigneur des Seigneurs, roi des rois, c'est moi avec un petit Seigneur en balle, qui roi en balle en Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Il nous honore. Voilà pourquoi, avant d'avoir été pasteur, en étant pasteur, j'ai jamais méprisé un serviteur de Dieu. Jamais. J'ai jamais fait l'unanimité dans aucune église, dans aucun ministère. Mais j'ai jamais méprisé les hommes et les femmes de Dieu. Parce que je les regarde avec des yeux bibliques, des yeux divins. Pour moi, c'est des rois. C'est des gens qui sont honorés par Dieu que je regarde. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Quand tu me méprises, quand tu méprises ton pasteur, quand tu me fais des indifférences, c'est parce que tu ne connais pas mon identité. Si tu connaissais mon identité et ton identité à toi, tu ne m'aurais pas méprisé. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Glorifier Dieu dans la souffrance, c'est obéir à Dieu dans la souffrance. Glorifier Dieu dans la souffrance, comme le Christ l'a fait, c'est servir Dieu dans l'intégrité. Glorifier Dieu dans la souffrance, c'est être intègre avec Dieu sans distraction. C'est accorder à Dieu la priorité dans ta vie, dans la primauté, la préséance, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je rêve, dans tout ce que j'aborde, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je pense, etc. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. La croix va être le lieu par excellence, comme le titre du message dit, de glorification. Le Christ associe la croix à sa glorification. Et le même Christ qui dit que la croix va être un endroit par excellence de glorification, il va dire également que la croix est l'endroit par excellence où les gens qui veulent avoir de la valeur, les gens qui veulent avoir du poids, il y a des gens qui veulent avoir de la valeur, du poids, qui veulent être signifiants, qui vont s'habiller négligemment, ou du moins qui vont s'habiller comme très chic. Il y a des gens qui veulent avoir de la valeur, qui vont faire de la calomnie, qui vont faire beaucoup de cadeaux. Il y a pas de mal dans ça, hein, d'en faire des cadeaux, par exemple. Il y a des gens qui veulent avoir du poids, de la valeur, de la signifiance, qui vont faire un paquet de choses. Pourquoi? Ils ne savent pas où aller chercher la gloire. La gloire est à la croix de Jésus, frères et sœurs. Ce n'est pas dans les diplômes. Je regrette, moi j'en ai beaucoup de diplômes. Mais je sais très bien que ma gloire ne réside pas dans mes diplômes. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ma gloire ne réside pas dans mes relations. Sœur Miqueta est une bénédiction pour moi, mais ma gloire ne réside pas dans Sœur Miqueta. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Mes enfants sont une bénédiction pour moi, mais ma gloire n'est pas dans mes enfants. Ma gloire n'est pas dans un emploi décroché. Ma gloire n'est pas dans mon pastorat. Ma gloire n'est pas dans une promotion obtenue. Ma gloire est à la croix de Jésus à Golgotha, frères et sœurs. Je sais très bien que si je veux avoir de la gloire, je dois mourir avec Christ et ressusciter avec lui pour avoir la gloire, frères et sœurs. La gloire est à la croix. Et le Christ nous rassure, frères et sœurs, que celui qui l'honore, le Père, le glorifiera. Et comment se fait-il qu'il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas heureux ou heureuses, qui ne sont pas dans la gloire, qui sont amers, qui sont acariâtres? J'ai déjà vu dans certaines églises, les gens font semblant d'être malades pour ne pas saluer les autres. Comment ça se fait si tu es glorifié, frères et sœurs? N'es-tu pas roi? N'es-tu pas reine? C'est quoi le problème donc? N'es-tu pas reine? N'es-tu pas... Tu as de l'importance pour Dieu. Ne cherche pas ton importance ailleurs. Dieu a déjà dit que tu as de la valeur. Et pourquoi la croix est-elle l'endroit de la glorification? C'est parce que c'est à la croix que toutes nos mauvaises pensées ont été charriées sur le dos du Christ. J'en parlerai une journée, frères et sœurs. Pourquoi c'est ça? Pourquoi la réalité est-elle? Mais c'est parce que c'est pour péché. C'est parce que c'est le péché qui est le problème. Comme Christ a tout endossé à la croix, eh bien, il ne reste plus rien aux malins pour nous diriger. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et comment on fait ça? J'achève. Comment on fait ça? On fait ça par la repentance. Comment on accède à la gloire de Dieu en Jésus-Christ? Comment on accède au poids, à la valeur, à l'importance, à la signifiance ou à la signification? Comment on a ça? Eh bien, on se repent. On se repent. C'est-à-dire que si on cherchait dans nos diplômes, dans notre travail, dans nos capacités, habiletés artistiques, sportives, si dans nos conjoints, dans nos femmes, dans nos relations amoureuses, si on cherchait là la gloire, vous remarquez, c'est des bénédictions, hein? Mais si c'est là qu'on cherchait la gloire, on se ressaisit. On dit, j'arrête de chercher la gloire là. La gloire est plutôt en Jésus. Et on confesse son erreur. On dit, Seigneur, j'ai beau chercher ma gloire là où elle n'est pas, là où tu n'as pas prévu dans ta parole qu'elle soit. Maintenant, j'ai compris que la gloire est à la croix. La croix est dans cette terre et situation et qui paraît à vue humaine misérable, honteuse. Mais je sais que là, ta gloire est cachée là-dedans. Je veux jouir de ta gloire. Je veux jouir de ton assurance, de ton bonheur, de ta paix, de ta reconnaissance. Parce que mon problème, c'est une affaire de reconnaissance que m'a cherché. Et alors, si tu me reconnais, montre-moi que cela suffit et fais-moi accepter que c'est suffit et je veux marcher avec toi. La croix, source de gloire. Toutes les relations humaines sont limitées. C'est des sources de gloire limitées. Je vais vous laisser avec ce message. Dernier. Ce qui fait la valeur. Je vois, où est Bibsa là? Où est Bibsa? Voilà, expliquons bagage. Je vais vous expliquer quelque chose. Tu vois cette Bible? Oh, je ne vais pas prendre l'exemple de la Bible. Parce que, de toute façon, la Bible a une valeur incontournable. Je prends ma tablette, par exemple. Voyez-vous ma tablette? Cette tablette, frères et sœurs, peut avoir de la valeur en fonction de deux choses principales. Celui qui l'avait possédé. Si tablette sort dans même dans là, si cette tablette que tu vois entre mes mains là, mettons que demain il n'y a plus de tablette dans le monde. Parce que cette tablette appartenait à Sergo, on peut ne pas la regarder. Mais si cette tablette appartenait à Michael Jackson, si cette tablette appartenait à Prichal, je te dis là, elle va se vendre au moins, combien là, combien vous diriez, 50 000 $. Parce que c'est Prichal, parce que la valeur de la chose dépend de qui la possède le plus souvent. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? La valeur de la chose dépend aussi parfois du prix que ça coûte. Du prix que ça coûte. Les gens vont vous dire, ne t'appuie pas sur ma voiture parce que c'est une Lexus ou alors c'est une Porsche. Comprenez-vous? Peut-être si ce n'était pas une Mercedes, la personne aurait accepté que tu t'appuies dessus. Mais parce que c'est cher, il ne faut pas que tu t'appuies. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Eh bien, c'est pour ça, oui, nous avons une valeur. Parce que c'est bon Dieu qui met tout. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dieu est ton propriétaire. C'est pour ça qu'il y a une valeur. Et parce que le prix que Dieu a payé pour toi, c'est le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il y a valeur. Toute la croix, source de gloire, Mabdoula, source d'importance, de signifiance, là, c'est parce que m'kon ki moun ki met tout. À la croix, Dieu t'a racheté. Et il a payé quoi pour te racheter? Quand il te rachète, tu es devenu sa propriété. Est-ce qu'on est là? Ce n'est pas pour toi ou parce que tu t'appelles Sergo que tu es important ou il aime que tu es important. Tu es important parce que c'est Dieu qui met tout. C'est propriétaire qui faut valeur, frères et sœurs. Et ça qu'il faut valeur, c'est parce que c'est avec sang Jésus le racheteau. Pas le sang des boubis, le sang des taureaux, ou avec de l'argent, ni de l'or. Mais avec le sang de son fils, le sang immaculé de son fils. C'est pour ça qu'il valeur. Alors, si à la maison, les gens disent que tu n'as pas de valeur, dis, je comprends, mais aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Si au travail, les gens disent que tu n'as pas de valeur, à l'église, les gens disent que tu n'as pas de valeur, dis aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Je pèse lourd, j'ai du poids aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Et pour ça, moi, encourager les jeunes. Appuie-toi sur Dieu. Une carrière, c'est bien. Une bonne épouse, c'est bien. Un bon mari, c'est bien. Des enfants, c'est bien. Tout ça, c'est de bonnes choses, à l'exclusion du péché. Mais n'appuie pas ta vie sur ces choses-là. Parce que là où commence à passer, quand l'épouse est décédée, quand l'époux est décédé, quand des rides commencent à arriver au visage de ton épouse ou de ton époux, eh bien, ça peut changer. Mais si tu fondes sa valeur et ta valeur sur Dieu, il n'y aura pas de problème quand Dieu reste inchangé. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur personnel pour être glorifié, tu cherches ta gloire partout. Tu ne pensais pas pouvoir trouver ta gloire dans le sang de Jésus, alors que c'est là que gît cette gloire, que réside cette gloire. C'est le temps aussi pour toi, eh bien, de vous approcher de Jésus. Tu vas avoir de la valeur. Tu vas avoir de la valeur, de la vraie, de la gloire réelle. La croix, peuple de Dieu, lieu par excellence de la manifestation de la gloire de Dieu. Et la croix, lieu par excellence, source de gloire. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, frères et sœurs. Et que Dieu nous bénisse ensemble.